François Bernard.
Bonjour, bonsoir. Il est l'heure de notre rendez-vous, de votre rendez-vous quotidien avec l'écologie, avec l'environnement. Merci de nous accueillir. Notre reportage tout à l'heure nous fera découvrir une aire marine protégée au Sénégal. Marie-Laure Josselin s'est rendue dans le parc de Bamboung. C'est à 130 km au sud-est de Dakar.
Il faut savoir que 99% de la biodiversité de la planète se trouve dans la mer et les océans. Donc si vous rapportez ce chiffre à la superficie maritime française, c'est-à-dire que les enjeux internationaux de la conservation de la biodiversité marine est vraiment très très important. Ils sont vraiment très importants.
Rendez-vous dans une vingtaine de minutes, juste avant de retrouver Dominique Dezonné et TerraTech, où il sera question de la création d'une chaire universitaire intitulée Optimisation et Développement Durable. Et tout de suite, je vous présente l'invité de ce matin, Pierre Radan, qui est l'ex-président de l'ADEME, l'Agence de maîtrise de l'énergie. Merci de nous rejoindre en direct sur RFI. Avec vous, on s'attarde quelques minutes sur l'actualité de ce vendredi, en commençant par cette polémique qui s'installe sur qui détient la légitimité écologique, illustrée par cette affaire des algues vertes qui polluent les plages bretonnes et dont on a beaucoup parlé dans l'émission ces derniers jours. Alors, hier, on le disait, le Premier ministre François Fillon s'est rendu sur place. Il a annoncé que l'État prendrait en charge le nettoyage des plages, qu'il allait réfléchir à un plan de lutte contre cette pollution. Et puis le député vert, Noël Mamère, a lui dit qu'il estimait que cet intérêt était bien tardif et surtout qu'il faisait un petit peu diversion au moment où les écologistes tiennent leur université d'été à Nîmes. Bref, le gouvernement récupérerait la thématique environnementale parce qu'elle devient électoralement porteuse. Comment vous réagissez-vous à cette bataille entre politiques sur qui est le mieux à même de défendre la cause environnementale ?
On va y aller par tranches. Il y a une première tranche qui est une question de légitimité politique. On est sur quelque chose qui est bien évidemment en compétition électorale et on sort des élections européennes. Donc il y a forcément, moi je suis légitime, toi tu ne l'es pas. Mmh. Il y a une deuxième couche derrière qui est toutes ces affaires-là, ça brûle. C'est des sujets difficiles. On se sent pas à la hauteur réellement du virage à prendre et donc à ce moment-là on rentre dans un processus d'angoisse parce que derrière tous ces discours-là il y a de l'angoisse quelque part.
On ne se sent pas à la hauteur. Qui ne se sent pas à la hauteur?
L'ensemble de la société, vous et moi dans notre comportement personnel, les politiques, les entreprises, on voit bien qu'on est dans un grand virage, qu'il faut aller dans ce virage et qu'on a quand même de l'inquiétude dans ce processus-là. Et bien évidemment, on projette cette inquiétude sur l'autre. Moi, je pourrais peut-être faire, mais c'est les autres qui ne veulent pas. Bon, et on est dans cette espèce de jeu. Ce jeu est assez destructif, en fait. Je crois qu'il faut abandonner l'inquiétude par rapport à un passé quelque part qui n'existe plus, mais comprendre la nouvelle vision du monde dans laquelle on est, hein. L'humanité, 9 milliards d'habitants d'ici quelques décennies, on va vivre à perpète sur cette planète, en tout cas pour l'instant on ne sait pas faire autrement, on a quand même intérêt à vivre en couple avec elle et faire ça correctement.
Donc les plus anciens défenseurs de la cause environnementale ne sont pas forcément les plus crédibles ?
Ah, c'est pas ça. C'est ma génération. Je les sens parfois envahis d'amertume. J'ai eu raison, on ne m'a pas écouté, je vieillis et je verrai pas le virage. Faut faire attention à ça. Mais c'est pour ça qu'il faut se projeter, c'est quoi pour nos gosses un 21e siècle réussi. Et puis tous les autres sujets, basta.
Puisqu'on parle des gosses, s'ouvre aujourd'hui en Corée du Sud une conférence qui réunit en préparation au sommet de Copenhague sur le réchauffement climatique des jeunes gens du monde entier qui sont des militants écologistes. Un des représentants français s'appelle Diego Le Gallou, il a 21 ans. Je l'ai appelé un petit peu plus tôt pour lui demander quel était l'objectif de cette réunion qui débute aujourd'hui même. Écoutez.
La Tunza conférence a lieu en ce moment même donc à Daejeon, donc au sud de Séoul en Corée du Sud. Et donc, elle réunit des jeunes activistes environnementaux, des jeunes leaders environnementaux d'à peu près 80 pays dans le monde. Et donc, elle aura lieu sur 5 jours où il y auront lieu des conférences, des ateliers, des débats et où s'échangeront beaucoup de contacts et où naîtront probablement aussi certains projets transnationaux.
Alors, pourquoi vous participez à cette conférence ?
Eh bien écoutez, j'y participe au nom de mon association qui s'appelle Unit Earth. donc qui est basé à Paris et qui travaille en fait à soutenir et à appuyer l'action d'autres organisations de jeunes environnementaux, principalement dans les pays en développement et sous l'aspect technologique. On leur crée leur site internet, on les appuie au niveau méthodologique. D'accord. Et donc je suis invité dans ce cadre-là au nom de la France, donc je suis le délégué pour la France.
Et qu'est-ce que vous attendez de cette conférence ?
Eh bien écoutez, ce que j'en attends, c'est très simple, c'est que je vais être en contact avec de nombreux autres jeunes activistes et je vais probablement pouvoir y trouver certaines organisations intéressées par nos activités. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que c'est l'un des meilleurs cadres pour trouver ce type d'acteurs.
Diego Le Gallou en ligne depuis la Corée. Pierre Adam, vous évoquiez l'amertume des vieux écologistes tout à l'heure. L'implication de la jeune génération est indispensable, j'imagine, à la révolution économique et culturelle qui s'impose.
Oui, après l'amertume, la fraîcheur. Vous allez avoir à Copenhague un rassemblement des jeunes contre le climat. Et il faut que vous compreniez le fonctionnement de l'ONU, d'ailleurs. Vous allez avoir les négociateurs des États. Mais vous aurez en même temps, dans les mêmes salles, les représentants des ONG. Donc ce jeune pourra peut-être être à Copenhague. On attend à Copenhague 18 000 personnes. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'est pas, capable aujourd'hui de faire un traité sans bénéficier de la pression de la société civile. C'est-à-dire que vous aurez à la fois dans les mêmes séances les représentants des États, les médias, les ONG, les scientifiques, les gens d'entreprise. Et dans la préparation qui va être celle de Copenhague, c'est l'ensemble de cette communauté humaine qui sera en mouvement.
Mais est-ce qu'on va être en mesure de signer un traité satisfaisant ?
C'est très très mal barré.
À la mesure de l'urgence.
C'est très très mal barré. Si vous voulez, les scientifiques nous ont posé une question en 2007 avec le quatrième rapport des scientifiques sur le climat en nous disant, écoutez, il faut qu'on divise par deux les émissions de gaz à effet de serre pour 2050. Bon. Donc un verdict clair, simple. Bon, sachant que la population humaine va augmenter de moitié d'ici là. De là est sortie une question. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de promettre à chaque enfant du monde un développement réussi dans sa vie au 21e siècle compatible avec cette exigence-là? Vous voyez que c'est une question tout à fait déterminante. Or, aujourd'hui, la réponse à cette question-là n'est pas venue. Donc, les pays en développement disent, nous, on ne peut pas s'engager sur une stabilisation du climat tant que l'on ne nous donne pas les moyens de notre développement et d'un développement réussi compatible avec le climat. Or, aujourd'hui, ce travail n'est pas fait. Donc là, la semaine dernière, j'étais à Bonn pour la énième préparation de Copenhague. Je dirais, les couteaux sont tirés. La négociation va être d'une extrême difficulté. Et pour l'instant, on ne voit pas, malheureusement, une issue favorable au stade où on est aujourd'hui.
Bien. Dans l'actualité également, Pierre Adam, 1 million de voitures électriques sur les routes d'ici 2020, c'est le gouvernement allemand qui s'est fixé cet objectif ambitieux. Alors la voiture électrique sur les routes du monde, est-ce que cela vous réjouit, est-ce que cela vous inquiète ?
Oubliez le moteur. Ça c'est un truc de mec. Mmh. Pensez taille de la voiture. Nous ne pourrons pas garder dans ce siècle le gabarit de voiture qu'on a. Et ce gabarit sera dans les musées, et les gens regarderont ça avec étonnement. On a des voitures totalement surdimensionnées. Vos enfants auraient bien évidemment une voiture électrique. Ce sera une petite voiture compatible avec la réalité de l'usage que vous faites. Sachez que la vitesse moyenne d'une voiture, c'est 50 km/h. Donc c'est pas une Ferrari dont vous avez besoin. Donc la voiture va muter. Voyez que la crise financière actuelle est en train de pousser à cette mutation. Personne n'aurait pensé que GM et Ford seraient au tapis dans les conditions où ils l'ont été.
Mais comment on va les alimenter, ces voitures électriques, si elles sont des millions, des dizaines de millions dans le monde ?
Bon, bah écoutez, là, la question est ouverte. Vous avez des gens qui sont bien évidemment partisans du nucléaire. Vous pouvez le faire aussi avec des combustibles fossiles, à condition de séquestrer le carbone, le gaz carbonique issu de la production d'électricité, au lieu de le balancer dans l'atmosphère, l'enfouir dans la terre. Enfin, c'est une solution à grande profondeur. C'est une solution de transition sur laquelle on travaille beaucoup. Et puis, vous avez tout le potentiel des énergies renouvelables. Donc, vous avez pour l'électricité aujourd'hui, vous avez trois voies. Les pays vont différemment sur ce sujet-là, mais on peut faire.
Bien, je vous propose, Pierre Adam, une pause musicale. On retrouve nos auditeurs juste après.
J'ai bu la tasse, assis en terrasse, quand t'es passé pas toute seule.
C'est pas du vent.
Je me rince l'œil, du
une larme d'orgueil, je paye en liquide ma chambre single à Palavas. Les ports de mer me désespèrent sans ta tronche. Les bords de mer sont des posters où rien ne bronche. Les sports de glisse, les feux d'artifice, comme c'est joli, comme c'est con. Un avion passe, traîne derrière lui, ah rien, je t'aime, pour toi tout baigne. Moi dans ma crasse, les bords de mer me désespèrent. Avec lui, comme à Malibu, un peu au ralenti, à perte de vue, il est parfois bon de se noyer, mais t'es pas chiche, comme dans Malibu. En terrasse, quand t'es passé, pas toute seule. Je reprends la même blonde à son bras, je fais la croisette, je fais la gueule. Et je t'en passe, les bords de mer me désespèrent.
Nouvelle recrue de la chanson française, Julien Doré et ses bords de mer. Pierre Adane, l'ex-président de l'agence de maîtrise de l'énergie en direct sur RFI. Vous avez occupé d'ailleurs d'autres fonctions, notamment vous étiez directeur adjoint du cabinet de Dominique Voynet, oui, au ministère de l'aménagement et du territoire et de l'environnement. C'est comme ça qu'on appelait ce ministère à l'époque. Alors aujourd'hui, vous menez une activité quoi, de veille, de conseil, c'est ça?
Oui, de conseil, notamment j'essaye de conseiller les pays africains dans la négociation climat. Je pense qu'il est absolument indispensable de regarder le futur de la planète vu du sud.
Alors, comment vous préparez ces acteurs-là du sommet à l'échéance de Copenhague?
Tout va se jouer sur notre capacité à avoir des projections, des capacités de développement pour les pays du Sud. Quelle technologie, quel mode de vie, quel mode d'organisation? Et je peux vous dire quel serait le critère de succès. Alors, je dirais au-delà de Copenhague. Est-ce qu'on est capable de raconter à un enfant d'Afrique, d'Amérique latine ou d'Asie ce que sera une vie réussie au XXIe siècle? Comment il va manger, comment il va habiter, de quel appareil, auquel appareil il aura accès, comment il va se déplacer? Vous voyez, toute cette négociation, en fait, au plus profond, ne peut être qu'un troc. J'abandonne le mode de vie ou le mode de civilisation dans lequel on est, les techniques qu'on a aujourd'hui, contre une promesse d'une autre nature, qui est une promesse d'une autre vie, et dans laquelle je vais pouvoir aussi trouver des satisfactions. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a des grandes avancées dans le domaine de la communication, dans le domaine de l'accès à l'information, Internet et tout ça. Donc on a des promesses sur le futur. Mais il faut qu'on ajuste ces promesses avec des scénarios sur l'énergie, etc.
Il y a des promesses, c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup de mauvaises nouvelles. Et dans le flot de ces mauvaises nouvelles, vous restez un écologiste optimiste, vous refusez la vision dépressive du monde d'aujourd'hui. Alors avec quels arguments?
Oh, alors très simple. La grande avancée philosophique de la fin du XXe siècle, c'est le slogan du loto, « Seuls ceux qui ont joué ont gagné ». Bon, sur la base de cette avancée philosophique fondamentale, c'est en construisant l'avenir qu'on peut dénouer les conflits qu'on a dans le présent et les peurs qu'on a dans le présent dans cette avancée. Dans la négociation climat, les pays industrialisés ont peur pour leur mode de vie, ont peur pour leur accès à l'énergie, ont peur de vous voyez dans la crise financière, d'une espèce de régression. Et les pays en développement ont le sentiment qu'il y a une claque qui est en train une porte qui est en train de leur claquer, qui est que l'état de la planète fait qu'on n'a plus les moyens que vous vous développiez. Mmh. Bon, il faut se dépasser ça.
Oui. Vous dites d'ailleurs la révolution économique, c'est remplacer le gaspillage de l'énergie par un usage attentif et précautionneux de l'énergie. Expliquez ça.
Ben, on va être 9 milliards d'habitants. Tous voudront bien vivre. C'est clair. Bon, les ressources de la planète sont limitées. L'environnement est déjà surchargé. Quelle est la valeur ? Alors, au sens personnel, moral, technologique, économique, qui va être la valeur du XXIe siècle ? Ça va être l'optimisation de l'utilisation des ressources. Faire que de chaque grain de matière, partout dans le monde, on en tire le meilleur possible. Vous voyez bien que ça va être la condition de la paix. Ça va être la condition de la stabilité sociale. Et ça va être, bien évidemment, la nouvelle définition du progrès. La nouvelle définition du progrès, c'est utiliser au mieux de l'intérêt de chacun les ressources que l'on a. Alors, les ressources énergétiques, au premier plan, mais aussi l'ensemble des matières premières, mais aussi la production biologique de la planète.
Alors, on semble en être loin, mais est-ce qu'on est sur le chemin, d'après vous ?
On est sur le chemin, mais vous savez, chaque fois qu'on est dans un changement de civilisation, c'est-à-dire que la vision du monde, ce qui va structurer nos choix dans le futur, commence à se dégager, mais les technologies, les modes de fonctionnement, le cadre législatif, les critères financiers sont pas encore là-dessus. Donc on commence à voir la lumière au bout du tunnel, on commence à comprendre quelle va être la définition du nouveau monde, mais le processus pour y aller va être long. Alors, avec cette difficulté particulière, c'est qu'il faut construire le 21e siècle, alors que le boulot du 20e siècle n'est pas terminé. Le 20e siècle a eu, le jugement de l'histoire sera très dur, le 20e siècle a eu des ressources technologiques, a eu des avancées scientifiques, a eu accès à des ressources de matières premières, etc., sans précédent dans l'histoire. Mmh. Et malgré ça, il a accru les inégalités dans le monde. Mmh. Et donc, on va devoir trouver une nouvelle voie de développement et on va devoir réduire les inégalités, faute de quoi c'est la paix qui sera en cause.
Qu'est-ce qu'on peut faire sur un plan individuel ?
Bon, écoutez,
est-ce que vous le faites, vous, tiens ?
Bon, j'essaye une alimentation de proximité, un habitat bien isolé, l'utilisation des énergies renouvelables autant que l'on peut, des modes de transport diversifiés, surtout pas un usage extensif de la voiture, l'utilisation massive de transports en commun. Vous voyez que vous avez là à construire un art de vivre personnel. Et puis, regardez toute cette merveille, encore une fois, des technologies de communication qui nous permet, avec quelques grammes de matière ou quelques watts d'énergie, de passer un moment fabuleux avec une copine qui est en Chine ou qui est ailleurs.
Vous restez un indécrottable optimiste, je dirais.
Non, j'aime ma fille.
Ouais.
J'aime ma fille.
Et vous avez envie d'un monde...
Bien sûr. Ben oui.
Pour elle ?
Oui.
Bon. On est avec Pierre Radane et c'est déjà fini. C'est souvent trop court, mais cette fois-ci particulièrement. Vous écoutez RFI et on continue l'émission dans quelques secondes.